Et alors, quand, sur fond de pillage, de dégradation de l'économie, sur lequel je ne vais pas m'étendre longuement, on a des politiciens sur place, en bout de course, qui n'arrivent plus à se faire élire s'il y a des élections, on a le pire qui advient, c'est-à-dire un renouveau de la criminalité politique sur fond d'instrumentalisation de l'ethnisme ou du racisme. Parce qu'on sait que malheureusement, depuis le début de l'humanité, trouver un bouc émissaire, ça marche toujours. Si vous dites à quelqu'un, je suis mauvais, mais si c'est pas moi qui est au pouvoir, ce sera ceux que vous détestez qui vont arriver, ils vont dire, vive le mauvais. Ça marche toujours, malheureusement. Et ce type de mécanisme, pillage économique, plus instrumentalisation de l'ethnisme, plus dirigeants politiciens cyniques dans le plus mauvais sens du terme, c'est ce qui a conduit très précisément au Rwanda en 1994. C'est ce mélange détonnant qui a gonflé artificiellement, qui a créé artificiellement des haines ethniques. Il faut savoir que parfois dans les ethnies, il y a des différences de langue, il y a des différences de religion. Au Rwanda, c'est la même langue, c'est la même histoire, c'est la même religion, etc., etc. L'ethnisme a été en grande partie suscité sous fond de différences sociales, sur mode, je vais dire, de plaisanterie. Je pourrais dire, bien que l'affaire ne prête pas tellement à plaisanter, il y a un siècle, enfin en 1860, quand les gens du recrutement de l'armée mesuraient les conscrits, on avait une taille moyenne qui, je me souviens bien, est de l'ordre de 15 à 20 cm en dessous de la taille moyenne actuelle. Alors si on applique les critères du Rwanda, on pourrait dire que nous ne sommes pas les descendants de la génération précédente. Ça ne peut pas être nos parents puisqu'on a 15 ou 20 cm de plus. Simplement, il y a eu une différence d'alimentation entre les deux. Or, ce qui se passait au Rwanda, c'est qu'il y avait certains qui étaient des pasteurs, qui vivaient du lait, des produits de la vache, etc., et d'autres qui étaient agriculteurs, qui n'avaient pas la même alimentation. On peut comprendre, par exemple, qu'il y ait des différences de taille. Mais tout ça, ça a été transformé en idéologie par des politiciens machiavéliques, et ça a abouti au génocide le plus rapide de l'histoire, probablement, puisqu'il y a eu 1 million de personnes qui ont été massacrées dans des conditions atroces en 3 mois. Eh bien, ce genre de crime, pendant tout ce genre de crime, la France, pendant tout ce temps, a continué de soutenir à fond à l'ONU diplomatiquement, de reconnaître le gouvernement qui le commettait, de le soutenir militairement, y compris en formant certaines de ses milices, par le capitaine Barry, entre autres, et de le soutenir financièrement. Les plus grandes banques françaises ont continué de verser de l'argent à ce gouvernement génocidaire jusque aux environs du 15 juillet, alors que le génocide était fini, qu'il a commencé le 7 avril. Donc pendant plus de 3 mois, et tout le monde était au courant de ce qui se passait. Eh bien, nos banques, vos banques, la BNP par exemple, il me semble bien, je pourrais retrouver les noms, mais les principales banques françaises, elles ont été complices, il faut le dire, du génocide.